Accès libre avec Luc Fortin.
Salut tout le monde, 20 janvier, comment allez-vous? Le 20 du 20, 20. Je suis certain que je ne suis pas le premier, mais je viens juste de réaliser, là, c'est ça, ça vient de me frapper. Jean-Sébastien Laliberté est avec moi, lui de l'autre côté de... c'est pas une baie vitrée, c'est juste une... c'est même pas une fenêtre, ça s'ouvre pas, c'est une vitre?
Ben, c'est
toute la mur?
La moitié, là. C'est okay. un bon 4 pieds de haut par probablement 8 pieds de large. Fait que c'est grand, là. Bon. Et non, ça s'ouvre pas.
Non, ça, c'est ça. Alors, vous en savez davantage sur notre studio qui est capitonné de mousse et avec des chaises qui roulent. Aujourd'hui, Gail Ouellet, elle est présidente, en fait, directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. On va parler d'une politique qui est attendue depuis une dizaine d'années. Enfin, semble-t-il qu'elle sera déposée bientôt sur les maladies rares. Un logiciel qui fait jaser, en fait, c'est un service pour rendre les sites web accessibles. On va reparler d'orthopédagogie. Et bientôt, dans 15 secondes, le tremblement essentiel, en fait, je cherchais sur ma feuille parce qu'il y a une dizaine ou une vingtaine de types de tremblements, Frédéric Calon.
Oui, bonjour.
Il y a une dizaine ou une vingtaine de types de tremblements.
Ça dépend. Ça, je pourrais pas vous dire exactement la quantité de types exactement de tremblements, là.
Mais il y en a plusieurs. Je lisais qu'il y en a, plusieurs.
Oui, c'est sûr que les plus fréquents, quand on parlait du tremblement essentiel, en fait, ce que ça veut dire, tremblement essentiel, ça veut juste dire que c'est un tremblement dont on ne connaît pas la cause.
Oh, OK.
Mais un autre type de tremblement qu'on voit aussi, c'est le tremblement causé par la maladie de Parkinson. Sinon, autrement, il peut y avoir des tremblements orthostatiques ou des tremblements causés par des médicaments. Où il peut y avoir des tremblements causés par l'hypothyroïdie ou toutes sortes de causes comme ça. Ouais.
Frédéric Calon, qui est professeur à la faculté pharmacie et chercheur au centre de recherche du CHU de Québec à l'Université Laval. La semaine dernière, c'est la première fois que j'entendais parler de tremblements essentiels. Finalement, dans la même semaine, j'en ai entendu parler deux fois. Je crois que c'est le plus répandu de ce que j'ai lu sur les tremblements. Et pourtant, suis-je... un des rares qui ne connaît pas ça ou ils sont rares ceux qui connaissent ça?
Ben, c'est vrai que c'est pas une maladie dont on parle beaucoup. Hein? Parfois, même des gens qui en souffrent sont plus ou moins eux-mêmes au courant, dans le fond, que c'est la maladie dont ils souffrent. Pour différentes raisons, là, ça a reçu moins d'intérêt au niveau de la recherche aussi. Il n'y a pas beaucoup d'intérêt porté à cette maladie-là par les compagnies pharmaceutiques non plus. Mais... c'est très fréquent. En fait, c'est peut-être 7-8 fois plus fréquent que le Parkinson, par exemple. Oui.
Je lisais que ça pourrait toucher une personne de plus de 40 ans sur 20 et une personne de plus de 65 ans sur 5. L'âge moyen, semble-t-il, d'apparition, en fait, c'est à n'importe quel moment, mais la moyenne d'âge, je crois avoir lu que c'était autour de 40 ans. Je me trompe ou...
Ben, en fait, il y a comme deux grands pics là d'apparition. Fait que dans des cas très génétiques, ça peut être plutôt dans la vingtaine et même avant. Mais pour la plupart des gens, ça risque d'être plus 65 ans. Là. Fait que c'est sûr que si on fait la moyenne des deux, ça fait 40, mais en fait, souvent c'est plus autour de la vingtaine ou après 60 ans.
Ouais, mais la précision méritait d'être dite, vous l'avez bien fait. La différence donc entre le tremblement essentiel et la maladie de Parkinson, parce qu'effectivement, à lire sur les deux, il y a des similitudes assez évidentes.
Oui, c'est ça. Il y a même encore beaucoup de patients qui souffrent de tremblements essentiels qui sont diagnostiqués comme Parkinson et vice-versa. Donc, c'est pas toujours facile à bien distinguer. Mais je dirais qu'à la base, un tremblement essentiel, c'est un tremblement plutôt d'action. Ça veut dire que quand la personne fait des mouvements, le tremblement continue. Tandis que dans la maladie de Parkinson, le tremblement va généralement diminuer au mouvement et s'accentuer au repos. Donc, quand la personne arrête là, de bouger, c'est là que les tremblements deviennent plus forts dans le Parkinson.
Ce qui fait que finalement, la personne atteinte de Parkinson n'est jamais au repos. C'est ça qui est... Non, mais c'est vrai.
On peut dire ça comme c'est, ça, oui.
Tu es toujours en train de trembler, donc tes muscles sont toujours en mouvement, alors qu'au ben, en tout cas, au moins l'autre peut, à un moment donné, je sais pas moi, inspirer, respirer, faire de la méditation, enfin bref, trouver des techniques pour essayer de ne pas bouger et peut-être avoir un peu de répit, là.
C'est sûr qu'en général, on peut dire qu'un diagnostic de maladie de Parkinson, c'est généralement pire que le tremblement essentiel parce que toute la composante neurodégénérative là, vers le futur. Là. Donc, le pronostic est comme moins bon dans ce sens-là, tandis que le tremblement essentiel va peut-être moins évoluer là, dans le temps, mais il reste que quand même, ça peut être très inconfortant là, pour la vie de tous les jours.
Ouais. Les symptômes, les causes?
Ben, si on commence par les symptômes, c'est beaucoup, souvent les mains qui sont atteintes. Parfois, on va voir aussi la tête, hein, ça peut être le visage. Et ce que ça peut impliquer, c'est que des tâches comme tenir un verre, par exemple, peut devenir très compliqué, surtout dans des situations sociales. Là, ça peut devenir très incommodant. La difficulté, par exemple, à se maquiller ou faire toutes sortes de choses qui
dextérité fine, là.
Exactement, oui.
Ouais.
Jouer du piano, du violon, tout ça.
Ouais. Ouais. Et les causes, est-ce qu'on les connaît? Vous parliez de génétique pour certaines personnes.
Ouais, en fait, c'est ce qui est un peu particulier de cette maladie-là. On n'en connaît pas beaucoup au niveau des causes. Bon, il n'y a peut-être pas eu nécessairement suffisamment de recherches non plus. On sait qu'il y a un aspect génétique parce qu'on sait que ça, comme on dit, ça court dans les familles, là. Mais de façon très surprenante, malgré les avancées de la génétique actuelle, on n'a pas encore réussi à mettre vraiment le doigt là, sur une cause génétique particulière.
Okay.
Ce qu'on pense, c'est qu'il y a des voies, là, je dirais, de transmission neuronale dans le cerveau qui sont impliquées, là, qui partent de certaines régions, comme on appelle qu'on appelle l'olive bulbaire, qui passe par le cervelet, le thalamus et le cortex. Et on pense que dans ces voies-là, il y a des anomalies, dans le fond, qui conduisent un tremblement.
Avec,
on ne sait pas nécessairement d'où ça vient.
Ouais, avec Frédéric Calon, professeur, chercheur, médecin, associé entre autres.
Pharmacien, oui.
Chercheur associé entre autres à l'Université Laval. On discute du tremblement essentiel. Bon, vous avez tantôt fait allusion à l'évolution qui est peut-être moins fulgurante ou moins complète, si on veut, là, ou moins sévère que le Parkinson, mais quand même, est-ce que c'est... À un moment donné, est-ce que ça arrête ou il y a toujours une évolution, bien que lente?
Ah, pour certaines personnes, ça peut quand même rester stable très longtemps.
Okay.
Mais pour la plupart, il va quand même avoir une certaine aggravation avec l'âge. Et c'est là qu'à un moment donné, ça peut devenir justement là, très incommodant. Il faut songer à introduire des traitements.
Est-ce qu'il y a... Bon, on va parler tantôt de maladies rares et de cette politique qui va être déposée éventuellement, là, on l'espère, d'ici au printemps. Bon, ça, c'est peut-être... C'est quoi? C'est un état plus qu'une maladie? Est-ce que ça pourrait...
C'est ça. Quand on parle d'un tremblement essentiel, puisqu'on ne connaît pas la cause, on peut facilement suspecter qu'effectivement, peut-être que ça regroupe plusieurs maladies, plusieurs causes différentes, mais qu'on ne connaît pas encore très bien. Donc, ce qui réunit, dans le fond, le tremblement essentiel, c'est beaucoup plutôt les symptômes de tremblement et qu'on peut essayer de traiter avec des médicaments.
Ouais. Mais
comme vous dites, on ne peut pas vraiment parler de maladie rare comme telle.
Ouais. Mais mon préambule, en fait, menait à est-ce qu'il y a suffisamment ou est-ce qu'il y a des sommes investies en recherche pour la peine ou vraiment c'est peut-être un parent pauvre?
Oui, c'est un parent pauvre, c'est clair. Au Canada, la recherche sur le tremblement essentiel, on n'en a vraiment pas beaucoup. Je suis un des seuls, en fait. Il y a d'autres chercheurs à Montréal, dans le reste du Canada, très peu. Pourtant, les cliniciens, les neurologues, eux, connaissent bien cette maladie-là, mais au niveau de la recherche, ils s'en fait très peu. Une des raisons, c'est qu'on n'a jamais été capable de développer de modèles, soit cellulaires ou animaux, pour étudier, dans le fond, ce tremblement-là.
Et en Europe, parce que, bon, je lisais une entrevue que vous aviez donnée au Paris Match et je me disais, bon, soit que le gars est vraiment, 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 vraiment très, 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 très bon ou personne s'en occupe en France ou s'en préoccupe en France, parce que souvent, on va aller plus près de chez soi lorsqu'on veut faire un article sur un sujet. Est-ce qu'en Europe, on s'étend sur cette maladie-là?
Pas beaucoup plus,
non. Ah oui, hein?
En fait, eux, pourquoi ils m'avaient contacté, c'est que j'avais reçu un peu, en fait, une petite subvention d'une association française, là. Et comme vous dites, en général, ils préféraient donner localement, mais là, bon, cette fois-là, ils l'ont donné à un collègue québécois.
Mais ça dit beaucoup de bien sur vous, par contre.
On peut prendre ça comme ça.
En tout cas, prenez-le. Moi, je ne connaissant pas le dossier, j'ai envie de le prendre comme ça. Ouais. Au chapitre de l'évolution, la dernière fois qu'on a fait « Yé », je sens qu'on a fait une petite percée. Est-ce qu'on peut regarder avec optimiste certaines avenues?
Oui, quand même. Il y a des traitements. Bon, au niveau de la pharmacologie, il y a quand même des produits qui fonctionnent chez à peu près 50 % des gens, donc des produits en pharmacie. Mais parfois, ça suffit pas. Donc, il existe des méthodes quand même chirurgicales qui ont été développés, je dirais, dans les 20 dernières années, qui peuvent, pour certains patients, là, être très efficaces pour réduire les tremblements. Donc, c'est sûr, il faut accepter là, d'aller jusqu'à une chirurgie, là, donc c'est quand même plus sérieux. Mais ces méthodes-là, quand même, se sont beaucoup améliorées. Là.
Et comment... Est-ce qu'il est possible de savoir, avec le type de tremblement, à l'avance, les pronostics de réussite lorsqu'on décide de passer sous le bistouri? Parce que moi, j'ai une amie qui est atteinte de Parkinson, ça n'a pas fonctionné, ils vont la refaire, l'intervention, ça ne lui tente pas du tout, mais elle est en moins bon état qu'avant la chirurgie. Donc, est-ce qu'au moins on sait un peu où on y va à l'aveugle lorsqu'on ouvre?
Ouf, là, c'est sûr qu'il peut y avoir des indices, là, peut-être, de certains patients qui sont plus... je dirais, qui ont plus de chances de bien répondre, mais c'est quand même assez difficile de bien prévoir. Ouais.
Donc, c'est un peu un coup de dé?
Un peu. Bon, on connaît des régions dans le cerveau dans lesquelles les tremblements se propagent. Mm-hmm. Donc, on va aller, dans le fond, endormir un peu ces régions-là pour bloquer la transmission des tremblements, notamment au niveau du thalamus. Mais on pense pas que pour un... C'est pas mal toujours la même région qui va être ciblée pour tous les patients.
Ouais. Mais c'est ça, c'est quand même assez envahissant comme intervention, là.
Oui, oui. Ouais,
ouais. Donc, faut y penser à deux fois. Exactement. Frédéric Calon, merci beaucoup, beaucoup. Il est professeur à la faculté de pharmacie, les pharmaciens, les chercheurs, enfin bref, même le Paris Match court après, parce que monsieur reçoit des prix. J'apprécie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. Waiting on you, trying to keep your head strong. With nothing to lose, you raise your voice with something to prove. And all the things you say to me, I can't forget them. You don't leave, but you tell me with your eyes what you need. Oh, please, do you think that I don't know what it means? All the things you hide from me, I accept them, but I need you next to me. If I can't hold you now, keep thinking that you might not come around. I have no words, I have no words to say. If I can't change, keep thinking, is this a lost goodbye? You say it first, you say it first to me. You're in the clear while I'm waking up to nothing but tears. And you stay the same, like I'm the only one that needed to change. You know the things you say to me, do you regret them? I just need you next to me. Say it first, you say it first.
thinking how you might not come around. And I have no words to say. If I can't change your mind, keep thinking, is this a lost goodbye? You say it first to me. If I come home tonight, keep thinking that you might not come around. I have no words to say. If I can't change your mind, keep thinking that this love's goodbye. You say it first to me.
Pour ceux qui sont des habitués de Canal M et qui ne sont pas qu'abonnés au balado de Accès Libre, vous entendez peut-être parfois la publicité où on dit si jamais vous voulez entendre une pièce musicale, envoyez un courriel à régie@vusezvoix.com. Mais moi, je l'essaie chaque semaine et ça fonctionne parce que justement, j'avais envoyé un petit courriel à régie en disant ben, les chansons pour lundi. Et la première était Words de Birdie. Et on vient d'entendre Words de Birdie. Jeudi dernier, était de passage dans nos studios un gars qu'on était bien content de mettre le grappin dessus parce que c'est un Français qui était en visite à Vegas et avant de retourner dans l'Hexagone, il était de passage ici, on en a profité. L'agence ITI Communication vend Facility, FACIL'ITI, comme un outil pour améliorer l'accessibilité des sites Internet. Et son directeur général, qui était présent au Consumer Electronics Show à Vegas il y a quoi, une dizaine de jours environ, est à Montréal, tout comme le club de hockey de Vegas, d'ailleurs, qui est en ville cette semaine. Je ne sais pas si c'est un hasard ou si Frédéric Sudreau est un fan des Golden Knights et il y suit. Frédéric Sudreau, bonjour.
Bonjour, ravi d'être là, mais en effet, je ne suis pas là pour le hockey.
Mais j'apprécie vraiment, vraiment que vous ayez fait le détour par chez nous. Sur le site web, on y lit que Facility rend l'affichage des sites web plus accessible aux personnes avec des difficultés de navigation ou en recherche de confort. Moi, je comprends, et vous me direz là où j'ai tort et là où j'ai raison, que vous visez la clientèle, bien sûr, avec un handicap visuel, mais que vous jouez beaucoup plus large dans votre palette.
C'est en effet l'un des rôles que l'on s'est fixé. Le premier, c'est d'essayer d'accompagner de manière un petit peu différente que ce que l'on entend habituellement, c'est-à-dire à travers le code source des personnes en situation de handicap qui auraient des troubles visuels, moteurs ou cognitifs. Mais à partir du moment où on peut adapter de manière importante, pourquoi ne pas imaginer simplement de l'adaptation de confort pour des gens qui ont des troubles plus légers, comme de la perte d'autonomie, ou des gens qui ont simplement une certaine fatigue temporaire, visuelle par exemple, qui pourraient permettre simplement d'adaptant légèrement l'écran, d'avoir plus de confort au fur et à mesure de la journée.
Dans un article du journal Les Affaires publié l'été dernier, je cite là, « Rendre son site conforme aux règles pour l'accessibilité des contenus web, WCAG, peut demander de réécrire complètement son site. Sans aller aussi loin, Facility se veut un outil prêt à l'emploi d'assistance à l'accessibilité. » Dans un langage de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire à l'emploi d'assistance à l'accessibilité et la différence entre ce que Facility propose et ce que le code W3, c'est-à-dire CAG, pourrait, disons, obliger le programmeur à faire?
Alors, on se situe, comme je disais, sur un champ complètement différent. Le WCAG, on est d'accord, c'est prendre à la source le problème en l'écrivant correctement. Je pense qu'on s'est toujours réclamé de cette façon de faire, c'est-à-dire d'aller vers le traitement d'un code initial qui permettrait d'avoir une source qui soit efficace, balisée correctement, traitée correctement, écrite correctement. Maintenant, je suis intimement persuadé que la technologie aujourd'hui et telle qu'elle sera demain permettra d'aller beaucoup plus loin que le simple traitement du code. Ouais. Et que mélanger les deux, c'est-à-dire un véritable travail correct fait par un développeur qui respecterait ses standards, assisté d'une technologie qui prenne en compte notamment le cognitif, c'est-à-dire les troubles de la compréhension, là où le code a quand même de vraies limites, serait quelque chose qui permettrait en effet à tout un chacun, avec des difficultés, des troubles, des pertes d'autonomie, de la fatigue, de pouvoir demain être beaucoup plus autonome qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc on ne cible pas une population en particulier, on essaie d'être le plus large et le plus exhaustif possible, et la technologie devrait nous permettre de le faire.
Expliquez-moi où sont les limites du code et comment Facility pourrait justement aller au-delà de ces limites-là. Donnez-moi un exemple concret.
Un exemple concret, imaginons un trouble cognitif. Le premier que je peux illustrer, c'est celui de la dyslexie. La dyslexie aujourd'hui a du mal à... Enfin, c'est une personne qui a des difficultés à comprendre ce qu'il lit, puisque son cerveau interprète de manière un petit peu différente les contenus textuels.
Ouais.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, les espaces entre les mots ne sont pas visibles. Bon, ben là, le code peut peut-être répondre, en effet, en faisant en sorte que tous les espaces entre les mots s'élargissent jusqu'à ce que le cerveau en prenne conscience. Mais quand votre cerveau interprète différemment certaines lettres, certains chiffres, certaines syllabes, certains mots complètement, c'est la limite du code, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir personnaliser tellement la lecture pour l'adapter à tout un chacun, ayant un trouble dyslexique, que ça me semble extrêmement compliqué que le code puisse répondre à tout. Mmh. Il faut des choses qui puissent reconstruire à la volée les contenus, donc une nouvelle technologie qui suivrait l'évolution du texte au quotidien, voire pourquoi pas l'évolution même des couleurs, des photos, des contenus. Est-ce qu'on pourrait refaire le code à chaque fois? Je ne suis pas sûr.
Facility, c'est quoi? C'est un logiciel, un service, une application, un... Qu'est-ce que c'est au juste?
C'est une solution technologique, c'est un algorithme qui est acheté par le propriétaire du site Internet, qui est plugué sur son site Internet, et c'est lui qui décide de l'offrir à ses utilisateurs.
Donc, il y a, c'est comme s'il y avait un autre site qui apparaît, à savoir, je clique sur un lien sur la page d'accueil du site, et là, tout à coup, la mise en page est modifiée?
L'algorithme reconstruit à la volée l'écran qui s'affiche sur le portable, la tablette ou l'ordinateur. C'est-à-dire qu'en effet, vous me dites « je suis atteint de Parkinson, mes gestes sont d'un niveau de tremblement relativement important lorsque je suis en crise, je suis incapable d'activer un menu déroulant, je suis incapable de cliquer sur un lien, sur un contenu de texte par exemple, parce que mon geste n'est pas suffisamment précis », l'algorithme reconstruit automatiquement ce qui apparaît donc à l'écran et multiplié par 10, 20 ou 30 à chaque fois qu'il y a une zone de clic.
Mais je vous dis ça comment? À savoir, supposons je vais sur un site... je ne sais pas moi, du ministère de la Culture, qui a décidé, lui, d'utiliser Facility. Comment le site du ministère sait mon besoin?
Ce n'est pas le site qui le sait, c'est vous qui le déclarez. C'est-à-dire que sur le site du ministère, vous aurez un lien qui vous permettra de dire « j'ai un trouble moteur qui m'interdit de pouvoir naviguer comme tout un chacun en cliquant sur un site. J'ai donc un trouble qui va être la sclérose en plaques, Parkinson, Madison. »
Et là, il y a une liste de troubles et je coche celui qui est le mien.
Ça peut être fait en direct comme ça ou ça peut être un profil très sur mesure qui peut même vous pouvez même être accompagné par un aidant qui vous permet de créer une seule fois votre code et ensuite il est enregistré.
Un profil.
Exactement. Okay, et votre profil vous est propre.
OK. J'ai lu qu'il y avait des mensualités rattachées à ça. C'est là que j'ai compris que c'était pas un logiciel, finalement, un achat. Pourquoi les mensualités? Pourquoi c'est pas juste un achat une fois et...
Alors, c'est simple. La mensualité, c'est premièrement pour une entreprise comme la nôtre, la facilité d'avoir de la récurrence sur la vente, point numéro un. Mmh. Point numéro deux, on s'engage à ce que celui qui l'achète, c'est-à-dire le propriétaire du site, encore une fois, ait un service qui soit le plus impeccable possible. Donc, ça veut dire qu'on fait du suivi derrière. Ça veut dire que quand il met à jour ses textes, ses photos, nous avons là aussi un contrôle qualité à réaliser. Et puis, on s'engage sur des territoires de R&D à travers cette rémunération-là. Des territoires, là aussi, où peu de monde s'engage. Je pense à l'autisme, je pense à Alzheimer. Voilà, vous avez Alzheimer aujourd'hui.
Donc, l'idée de bonifier et d'atteindre d'autres publics qui vont pouvoir bénéficier, d'où la recherche et développement là, dans lequel vous investissez.
Tout à fait.
Ouais. Votre compagnie, IT, c'est une OBNL? C'est une compagnie, je ne sais pas moi, qui avec des actions? C'est une... Parce que souvent, on associe bienfaisance à un autre type que celui ou celle qui veut plaire aux actionnaires.
Les actionnaires, il n'y en a qu'un, c'est moi. Donc, j'ai pas trop de soucis là-dessus. Non, c'est une vraie philosophie d'entreprise. C'est une vraie valeur que l'on développe. On est très, très proche de l'environnement. Aujourd'hui, on est une entreprise qui a été la première société certifiée en environnement en France, une première société de service agence de com, au même titre qu'on s'intéresse, en effet, à essayer d'innover sur des territoires qui nous sont chers. On a eu des collaborateurs qui sortaient de prison. On leur a permis d'avoir une deuxième vie professionnelle. Ouais. On leur a donné une chance. On a eu des collaborateurs en situation de handicap. On a essayé de solutionner certains de leurs troubles en leur apportant de la technologie. On s'est dit, pourquoi pas aller plus loin? Ça fait partie de nos valeurs.
C'est disponible en plusieurs langues?
C'est disponible actuellement en 7 langues. Wow. Plus le français, ça fait 8, voilà.
OK, quand même. Je comprends donc que ce n'est pas nécessairement pour une personne aveugle, c'est-à-dire que ça ne répond pas à mes besoins de manipulation d'un site web avec ma synthèse vocale, mais par contre, ça ne me nuira pas. Non, de toute façon, je ne suis pas obligé de cliquer, c'est ce que je comprends. Je ne suis pas obligé d'aller cliquer pour le mettre en marche, ce profil-là.
Tout à fait.
Si j'en ai pas besoin.
C'est exactement ça. Et je vais même aller plus loin. Ça ne s'adresse pas aux personnes aveugles. Okay. Je vais vous dire pourquoi. Mm-hmm. On a eu plus de 14 000 testeurs qui nous ont permis de créer ces différents profils. 14 000. Sur ces 14 000 testeurs, à chaque fois qu'on est rentré dans des associations de non-voyance, les gens qui nous ont aidés nous ont dit « Mais est-ce que vous pensez qu'on va désactiver notre synthèse vocale pour utiliser la vôtre ?»
Ouais.
Il en est hors de question. Okay. Donc cet outil, pour nous, n'a pas d'utilité. Et c'est la raison pour laquelle on a abandonné le projet de synthèse vocale pour aller vers d'autres types de troubles.
Mais par contre, vous me disiez avant l'entrevue que pour différentes pathologies oculaires, lorsqu'il y a un résidu visuel, là, il y a des mises au point qui peuvent être faites justement pour faciliter l'accès visuel aussi.
Tout à fait. Ouais. On a plus de 1000 modifications possibles qui peuvent créer 1000 profils différents en fonction de tout un chacun. Et encore une fois, on espère aller beaucoup plus loin demain.
Merci beaucoup, beaucoup d'être passé chez nous. Frédéric Sudreau, qui est directeur général de l'agence IT.
Merci beaucoup.
Accès libre.
Avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, Christiane Campagnan à la recherche et la revue de presse, on discutait de l'abonnement d'Accès libre parce que moi, j'ai beau m'abonner, il ne télécharge pas tout seul. Je suis obligé d'aller chercher à chaque semaine. Et là, Christiane, elle l'a chez elle. Jean-Sébastien, l'a sur son iPhone. Alors, je ne sais pas si vous avez des ennuis à la maison, mais dites-moi donc que je ne suis pas le seul. Je commence à le prendre personnel.
Vous pouvez nous écrire à canalem@vusezvoix.com.
Tout à fait. Madame Campagnac, qu'est-ce qu'il y a de neuf?
Bien, tout d'abord, je voulais annoncer une bonne nouvelle.
Ben oui.
Parce qu'en novembre dernier, tu avais parlé à la mairesse de Blanc-Sablon, mm-hmm. puisqu'il y avait eu une suspension du transport adapté. Les transports Anthony Dumas avaient suspendu le service parce que le gouvernement refusait de l'aider financièrement.
C'est une forme de moyen de pression.
Oui, un peu. Parce qu'il avait fait des travaux pour mettre à jour ses véhicules, mais il n'était pas éligible au programme de subvention aux véhicules collectifs accessibles parce qu'il ne. À cause de la variété de ses activités. C'était pas son activité principale.
Oui, puis ça prenait un permis ou une licence particulière, puis ça y aurait coûté un bras.
C'est ça. Mais là, c'est revenu. Les transports Anthony Dumas ont finalement obtenu l'aide financière réclamée par le ministère des Transports. Ce que dit Mme Beaudoin, la mairesse, c'est que le gouvernement devrait faire preuve d'un peu plus de souplesse dans ses politiques à l'égard des petits milieux qui n'ont pas les mêmes réalités qu'ailleurs en province. On ne fit pas dans le monde réel, qu'elle a dit. Il faut toujours revendiquer ou expliquer le contexte pour dire que ça ne marche pas pour ces programmes-là. Il faut les adapter. C'est toujours beaucoup de travail et d'énergie à chaque fois parce que là, ça a eu le temps d'être suspendu entre-temps. Il y a des gens qui ont écopé. Tandis que si, en amont, on faisait preuve d'un petit peu plus de souplesse pour les petits milieux, les choses se passeraient plus aisément.
Bien, c'est surtout ça le problème. C'est qu'on a toujours l'impression qu'il faille couper quelque chose. Mon Dieu, c'était où donc qui ont coupé le vendredi soir? Oui, c'est ça. Bon. Puis pendant plusieurs fins de semaine, là, il y a des gens qui ne pouvaient pas profiter de leurs activités. On dirait que lorsqu'on négocie, on ne tend pas vraiment l'oreille. Lorsqu'on fait des moyens de pression puis qu'on enlève aux usagers leur seule façon de se déplacer, ben là, le gouvernement réagit.
Et voilà, tout à fait. Maintenant, on a entendu avant la pause monsieur
Sudreau.
Voilà.
Oui, Frédéric.
Qui, lorsqu'il est venu à Montréal, je pense qu'il repartait hier,
ouais.
Et arrivait du CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas. Et il y a quelques médias français spécialisés dans les questions qui concernent le handicap qui ont aussi noté quelques innovations présentées lors de ce CES. Tout d'abord, il y a le site handicap.fr qui en a fait toute une liste. C'est surtout des innovations qui peuvent aider pour les personnes un peu en perte d'autonomie, qui vivent seules, des innovations qui servent beaucoup à rassurer peut-être les proches aidants.
OK.
Il y en a un qui est une forme de sol intelligent. En cas de chute, le sol connecté
Technis
peut prévenir la personne, mais il peut aussi prévenir les pertes d'équilibre parce qu'il y a des capteurs sous la moquette qui calculent le nombre
Voyons
de pas,
donc.
Qui calculent la fréquence d'utilisation des toilettes. On peut mettre des trajets qui analysent la manière de déplacer de ces personnes et puis ensuite peuvent transmettre les informations aux proches aidants ou au personnel médical.
Ça doit coûter un bras puis un barreau de chaise, ça, là. Ben, je veux dire, il faut lever la moquette, faut...
Oui, sans doute. Surtout qu'au CES, ce sont souvent des solutions qui ne sont pas encore commercialisées.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais quand même,
il y a un principe semblable avec des couches connectées qui analysent
les urines,
qui prennent
la
température, qui retrouvent les pensionnaires égarés, parce qu'il y a un petit disque qu'on met, qui se clip sur l'avant de la protection, qui elle-même est équipée de capteurs jetables.
Ouais.
Il y a la montre Care Predict.
Mais on rit, mais aujourd'hui, avec la famille Duceppe qui est dans l'actualité avec cette poursuite-là, peut-être qu'effectivement, si tous les patients qui avaient une... Je ne sais pas si Mme Duceppe avait une couche, là, mais peut-être qu'on aurait pu régler bien les problèmes.
Bien, quand ce n'est pas la couche, il y a d'autres gadgets. Il y a la montre Care Predict qui sait où vous vous trouvez, combien de temps vous mettez à manger ou à vous laver les dents, qui partage ces infos avec vos proches ou votre équipe soignante. Il y a des lunettes branchées qui signalent les chutes. Évidemment, elles ne peuvent pas vous empêcher de tomber, mais elles peuvent alerter les secours. Et on dit que les lunettes Elysi Healthy ont des verres pour la vue et des capteurs qui détectent les chutes brutales ou molles. Okay. C'est la traduction qu'a utilisée handicap.fr.
Ouais, pour ça,
et il y a un plafond sensible aussi.
Mais voyons!
Sticky Sweet House, un plafond qui joue les espions grâce à des capteurs qui détectent les battements du cœur. En cas d'arrêt cardiaque, ils alertent les agents qui appellent les secours et qui déverrouillent la porte pour eux.
Bon, là, c'est trop. Là. Si le plafond commence à savoir le rythme cardiaque, je comprends pas. Il touche même pas à mon... Je comprends pas. Enfin. OK.
Bon, finalement, il y a le site Fairface qui a retenu, lui, la lampe LexiLight. D'une start-up française, c'est une solution pour les personnes qui ont un problème de dyslexie qui leur permet de lire plus vite et plus longtemps sans fatigue oculaire.
Ah.
En modulant et en pulsant les ondes lumineuses, ils arrivent à tromper le cerveau de la personne et créer chez elle un œil dominant leur faisant défaut. Et ça permet aux personnes, 87% d'entre eux qui l'ont testé éprouvaient une amélioration. Mais on souligne justement dans ce cas-ci que c'est une solution qui est très coûteuse, 549 euros, mais qu'elle est faite 100% en France et qu'elle est garantie pour 10 ans.
Il y a des robots aussi, là, j'entendais dire qu'il y en a un qui va installer la recharge de papier hygiénique. Enfin, chaque robot, semble-t-il, a sa petite tâche, là. Mais ça aussi, par contre, ça pourrait aider des gens. On n'a jamais parlé de robots ici. Mais pour quelqu'un qui est toujours obligé d'avoir de l'aide pour son ménage, je ne sais pas, peut-être que le... Je sais pas. Tu regarderas ça, Christian. Voir s'il y a un sujet là ou pas.
Je regarderai.
Gail Ouellet, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Je vais bien, merci beaucoup. Et vous?
Ben oui, c'est gentil. Elle est présidente et directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. Ça n'a pas changé, hein? Parce que je sais que des fois, c'est maladies rares, mais...
Les maladies orphelines, on espère qu'il y en a qui deviennent de moins en moins orphelines, beaucoup de maladies rares sont encore orphelines.
Ouais. Il devrait y avoir, si je me fie à ce qu'on lit, une stratégie nationale sur les maladies rares ou orphelines qui serait sur le point d'être déposée. Avez-vous, c'est quoi, c'est pour le printemps, c'est...
Bien, on n'est pas capable vraiment de le savoir. C'est sûr que toute cette démarche-là, c'est suite à nos représentations, nos demandes, en allant voir les ministres de la Santé avec des patients, des médecins. Donc, il y a eu une avancée en 2018 où le docteur Barrette a accepté enfin de mettre un groupe de travail sur pied. Le groupe de travail a effectivement travaillé et pondu un rapport avec des recommandations. Ça a été l'été 2019. Et puis, on a rencontré la ministre en novembre pour savoir où c'en était. Et puis, on nous dit qu'un plan d'action est en train d'être fait, mais on ne peut pas savoir vraiment quand il y aura une annonce. Et c'est quoi les échéances, les échéanciers, et qu'est-ce qui va se passer.
Donc, rien qui nous dit que ça pourrait être pour le prochain budget, là.
Non, c'est ça. On a, en fait, à cause du flou et du fait que le ministère travaille encore, on pense qu'il n'y aura pas grand-chose dans le budget pour les maladies rares.
Pour le moment, en tout cas.
C'est ça. Et puis, mais bon, c'est sûr qu'on a réitéré nos priorités des patients puis des proches aidants à la ministre.
Justement, parlons de vos priorités suggérées et du rapport que vous avez lu. Est-ce que, ça veut rien dire le rapport, ça veut pas dire que celui-ci sera appliqué à la lettre dans la stratégie nationale, mais est-ce que vous reconnaissez certaines de vos priorités suggérées dans ce rapport?
Oui, on n'a pas vu le rapport. Des fois, je comprends pas trop les mécanismes, là, mais même si c'est un groupe de travail mis sur pied à la demande du ministre de la Santé au ministère, nous n'avons pas ce rapport-là.
C'est pas public.
On ne peut pas l'avoir et il n'est pas public.
Okay.
On a eu un résumé verbal des recommandations. Puis, on a dit à la ministre qu'on est content parce que c'est quand même assez aligné avec la stratégie proposée que nous, on a publiée et qui contient une quarantaine de propositions. Puis les grandes lignes, en tout cas, semblent suivre ce qu'on a proposé. Mais ce qu'on a voulu lui dire pour la priorité, c'est que justement, là, on a eu comme 8 recommandations pêle-mêle comme ça. On se demandait dans quel ordre, mais nous, la priorité, depuis le début qu'on entend des patients et des proches aidants, c'est la question de l'éducation, de la sensibilisation, de la formation des médecins et des professionnels de la santé.
Oui. C'est ça, parce qu'on parle souvent de manque de ressources financières pour accélérer la recherche parce que, les pharmaceutiques n'ont pas nécessairement envie d'investir dans une expertise qui ne touchera pas beaucoup de clients éventuellement, mais au-delà de ça, il y a bien d'autres aspects que vous voulez voir modifiés, là.
Oui, en fait, là, le gros message, là, c'est que pour la recherche, là, puis les traitements, la recherche, là, on trouve que depuis 10 ans, depuis notre existence, là, il y a vraiment eu des progrès. C'est rendu une mode. Les gens s'intéressent à la recherche, les maladies rares, s'intéressent, les pharmaceutiques s'intéressent à chercher des thérapies. Donc, c'est pas terminé, là. Il y a beaucoup à faire, mais ce qui a pas changé depuis 10 ans, c'est dans notre réseau de la santé, comment c'est les patients sont traités, si on veut, les délais de diagnostic, comment on leur annonce mal leur diagnostic, comment on les appuie pas après un diagnostic. Il y a ceux qui n'ont pas de diagnostic, qui errent encore d'un médecin à l'autre. Il y a toute la question des services sociaux il n'y a pas d'équité entre les gens qui ont des maladies communes connus, puis certains des maladies rares, c'est difficile d'avoir des services, d'être éligible à des programmes, juste parce que le fait que les fonctionnaires connaissent pas ces maladies-là.
Ouais, ouais.
Fait que c'est tout leur vécu immédiat, là. C'est le c'est leur vie quotidienne qui est affectée quand toutes ces choses-là sont pas prises en compte. Puis c'est pour ça que nous, par ce qu'on entend là, des patients, des proches aidants, puis ce qu'on a dit à la ministre, c'est il faut commencer à éduquer, sensibiliser les médecins puis les professionnels de la santé dans le réseau. Il y en a certains qui le sont, mais on dit pas d'apprendre 7000 maladies rares. Ce qu'on dit, c'est comment aborder ces patients-là, il y a une problématique spécifique, les soutenir, trouver des ressources. Les médecins n'ont pas toutes les ressources qu'il leur faut aussi.
Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais d'ailleurs, je remarque là, qu'il y a un intranet qui est suggéré dans vos priorités,
oui,
qui pourrait justement être un outil supplémentaire, je présume?
Oui, tout à fait. Nous, là, avec notre centre IRAR, là, un centre des formations étudiants en maladies rares, on connaît beaucoup au Québec maintenant des médecins, des chercheurs qui sont experts de certaines maladies rares. Mais ça, là, nous autres, on les a trouvés en cherchant,
oui,
ou parce qu'on les connaît, on a notre petite liste à nous. On trouve que chaque médecin devrait pouvoir consulter un registre comme ça. Puis aussitôt que c'est la première fois qu'il voit un patient avec telle maladie rare, ben il appelle l'expert, mm-hmm, puis il y a la collaboration, puis du transfert de connaissances.
Christiane m'a fait suivre un article abordant le cas d'une famille sur la Côte-Nord qui se dit ruinée par les voyages, les nombreux voyages vers Québec et Montréal pour le traitement. En même temps, bon, on le dit, c'est une maladie rare. J'imagine que chaque clinique ne peut pas être experte dans tout. Qu'est-ce qu'on peut faire dans des cas comme ceux-là?
Ben, vous avez raison, là, c'est sûr qu'on ne peut pas demander que les médecins connaissent toutes les maladies puis qu'il y ait des cliniques spécialisées partout. Fait que c'est un problème, par contre, de manque de certains spécialistes dans la région, là. Fait que ça, c'est souvent les maladies rares, comme ce syndrome-là, c'est des syndromes complexes avec beaucoup de symptômes et d'éléments là, pour la prise en charge. Fait que quand il manque des spécialistes dans une région, ben là, ils sont soit qu'ils n'ont pas l'aide ou soit qu'il faut qui aillent dans les centres urbains. Puis c'est ça, ça coûte cher, puis pas tout n'est payé.
Ouais.
Nous autres, on connaît des familles qui dépendent même de fondations privées,
ouais, là, là,
pour faire ces voyages-là. Puis donc, c'est vraiment... Puis ce qu'on dit, nous, c'est télémédecine, il y a peut-être aussi des tests, des examens qui ne peuvent pas
se
faire dans les régions, donc il faut qu'ils aillent à Québec, cette famille-là. Mais il y a probablement des choses qui peuvent se faire en parlant avec des médecins là-bas, par télémédecine. Il me semble que la ministre McCann a dit elle-même récemment que la télémédecine au Québec, on en profite pas.
Oui, ouais. Est-ce que justement des cas comme celui-là pourraient ou font partie de vos suggestions dans le sens il faut être attentif aux gens en région et trouver une solution pour ne pas avoir à quitter la région pour être traité?
Oui, tout à
okay.
fait.
Okay.
Tout à fait. Puis nous, on sait qu'il y a des experts plus dans les régions urbaines ou des cliniques spécialisées ou les services de génétique, ben que ces personnes-là des régions puissent venir une fois par année pour un bon suivi,
ouais, ouais,
puis qu'ils repartent avec un protocole pour leur prise en charge dans leur région, qui est de l'information qui circule, que l'autre chose évidemment, ben ça c'est pour tout notre réseau de la santé, c'est avoir plus de spécialistes là, là-bas. L'autre chose, c'est les autres services, dans les CLSC, les services des centres de réadaptation, ils n'ont pas les mêmes services dans les régions.
Mmh,
puis, comme ils ont moins de personnes avec les maladies rares, donc sont encore moins connus dans ces services-là, ben ils n'ont pas les mêmes services qu'en région urbaine. Donc, c'est pas juste les médecins, mais c'est tous les autres services aussi.
Elle est présidente et directrice générale du regroupement québécois des maladies orphelines. On vous reparle, sinon... avant, pour une autre situation, ben, à tout le moins, après le dépôt de ce plan que l'on souhaite voir quand même assez rapidement. Gaëlle Ouellette, merci.
Oui, et surveillez le 29 février, la vraie journée des maladies rares cette année.
Ben, on surveille ça, c'est un samedi.
Oui.
Merci.
Au revoir, merci.
On ravale la peine de parler, ça dérange. Mais qui tient les
désir d'avalanche, de casser les cils en salalim et les paroles limousines, tous les hold-up de l'intime, sans attendre, sans attendre. On a assez perdu de temps à faire semblant. Viens sauter dans l'océan, sans attendre, sans attendre. Je vois le vent qui soulève la vague, soulève la vague.
Ça gagnera pas un prix Polaris, là. Mais ça s'écoute bien, ça fait sourire et on a envie de baisser les fenêtres quand il fait pas moins 15. Lille ou Ariane Brunet et DRMS qui s'associent avec Madame Justine Dionne-Simard, prise 2. Elle est orthopédagogue à l'Institut des tremblements d'apprentissage. Bonjour, Justine.
Bonjour.
Ben, merci d'être encore là parce qu'il y avait plein de questions que j'ai pas eu le temps de te poser la semaine dernière. En fait, on a fait le tour un peu des paramètres, mais on n'a pas été au noyau de l'affaire, à savoir comment ça se passe lorsque vous travaillez avec, et allons-y étape par étape, d'abord les élèves.
Oui, tout à fait. C'est sûr que dans le fond, on parle un peu plus du rôle orthopédagogue et tout. En ce qui concerne le travail auprès des élèves, c'est sûr que moi, je travaille dans un contexte différent. Je ne suis pas une orthopédagogue engagée par une commission scolaire. Mais j'ai quand même des expériences dans le milieu, puis j'ai des commentaires de mes collègues qui me permettent vraiment de témoigner de la réalité la plus proche de ce qui se vit avec les élèves. Donc, si je commencerais, c'est sûr qu'on vit beaucoup avec des difficultés, des problèmes, mais je ne m'attarderais pas sur tout ce qui est la spécificité des problèmes des élèves, mais plutôt en regard du déroulement, puis des comportements.
Ben, en fait, la première question, c'est est-ce qu'ils sont contents d'aller vous voir ou ils voient ça comme une punition?
En fait, au primaire, les jeunes du primaire, je remarque qu'ils sont bien contents d'aller à l'orthopédagogue. D'accord. Ils développent une relation privilégiée avec elle, ils vivent des réussites, ils répondent bien à l'autorité. Puis plus qu'ils grandissent, fin primaire, on peut remarquer une certaine passivité quand il n'y a pas de progression, etc. Mm-hmm. Puis là, vraiment, quand on rentre au secondaire, certains élèves qui ont vraiment vécu des échecs tout au long, on va voir des réticences à venir. Je vais manquer ma classe. Non, j'ai quelque chose d'important. Je veux pas venir. Tu sais, on ressent vraiment qu'il n'y a pas d'intérêt parce qu'ils n'ont pas vu
le bénéfice.
Exactement.
Ouais.
Fait que des fois, on remarque ça vers la fin, mais c'est justement ça, la difficulté du travail au secondaire, c'est de s'assurer que de faire tout dans la mesure pour qu'ils rentrent, puis leur montrer que, regarde, tu vas faire quelque chose ici qui va t'apporter quelque chose en classe, puis tout ça. Fait qu'on vit avec des variables au secondaire, je trouve, un peu plus difficile parfois. Ouais. Mais ça dépend vraiment aussi des élèves. On a des élèves, c'est ça, ils ont toutes des variables différentes qui font en sorte qu'ils sont en difficulté. Il y en a qui progressent, il y en a qui ne progressent pas.
Est-ce que ça peut varier selon le milieu ou c'est un préjugé? Je sais pas moi, si on prend Chambly versus Schlager-Maisonneuve ou si on prend Rouyn-Noranda versus Saint-Henri, on a tendance à penser qu'il y a des milieux où peut-être qu'ils sont plus encadrés.
Oui, mais comment les élèves répondent, ça va vraiment être des variables internes. Mmh. Mais par contre, comment ils perçoivent le service en orthopédagogie, ça, je pense vraiment que c'est en lien avec le milieu. Ouais. Comment ils ont reçu un service au primaire, est-ce que ça a été efficace, est-ce que ça n'a pas été efficace? Puis s'il n'y a pas de service, si c'est désorganisé, oui, le milieu peut avoir un effet, effectivement.
Bon, moi, les parents, ma chum qui est ortho, entre autres, me dit que, elle, qui travaille à Montréal, a souvent de la difficulté avec des gens qui proviennent d'une certaine culture et pour qui, de voir leur enfant avoir besoin de services ou peut-être même doubler, ça fait mal, c'est pas acceptable. On réagit.
Oui, c'est comme vous avez dit, là, ça dépend beaucoup de la vision de la famille en regard des troubles ou des handicaps. Moi, je remarque de plus en plus, honnêtement, une vision de plus en plus inclusive. Mais une différence par rapport au fait que si c'est un handicap physique, une déficience intellectuelle, l'autisme, comparativement, si c'est un TDAH ou une dyslexie, il y a une différence d'acceptation. Puis ça, c'est vraiment, ça revient beaucoup aux professionnels de la santé sur le plan de l'acceptation des diagnostics. Mais en termes d'aide, de ce qui est donné à l'école comme aide, j'ai rarement vu des parents qui ne voulaient pas que leurs enfants bénéficient d'aide. C'est sûr que le doublement, ça peut être des sujets difficiles, mais c'est une question d'ouverture personnelle puis d'acceptation au final. Mais on voit vraiment des belles améliorations, là, peu importe la culture des parents.
Je me trompe ou chaque enfant dans une école qui bénéficie des services d'une orthopédagogue va voir un plan d'intervention qui est structuré pour lui et qui doit être accepté à la fois par la direction et le parent, quelque chose comme ça?
Oui, exactement. Okay. Donc, les plans d'intervention, normalement, les élèves qui sont suivis ont tous les plans d'intervention, au primaire, surtout au secondaire, il y a des choses qui se complexifient, donc on mettrait plus ça de côté. Là. Okay. Mais oui, ces plans-là sont signés par les parents, par les orthos, par la direction, puis c'est une concertation, tout le monde ensemble, qu'il y a des adaptations qui sont mises en place pour les enfants, puis les buts, les objectifs aussi, c'est une concertation, tous ensemble.
Les enseignants sont des alliés ou ils vous trouvent comme d'injambes des fois?
Il y a des profils différents. On a des milieux où est-ce que les enseignants aiment planifier avec les orthos, ils veulent connaître des pratiques qui sont jugées efficaces, ils veulent du soutien. Il y en a d'autres qui veulent rien savoir, qui
Pourquoi?
Savent comment faire. Il y a une espèce de... C'est sûr que des fois, les orthopédagogues vont être... Il y a peut-être des fois l'âge qui fait quelque chose. Des fois, c'est un peu comme... les pratiques, ça change au fur et à mesure. Il faut que tu tiennes au courant. Puis c'est un peu une question de... Tu te sens un peu intimidé par l'orthopédagogue.
L'enseignant pourrait se sentir remis en question?
Oui, en effet. En jugé? Surtout, c'est une question de manque de temps. Puis ça... Faut les comprendre parce que c'est vrai qu'ils manquent de temps. Ils ont tellement de travail. On n'a pas le temps. On veut, mais on n'a pas le temps. Souvent, ça arrive beaucoup qui veulent, mais qui ont manque de temps de concertation. Tout le monde ensemble, leur tour, les enseignants. Fait que ça arrive souvent. Mais il y a des profils différents. Puis ce qu'on remarque, c'est que c'est le milieu qui fait vraiment la différence. Okay. Est-ce que l'organisation des services est peut-être leur tour, etc.?
C'est drôle, peut-être comme question, mais est-ce qu'il y a une différence entre les gars, les filles, que ce soit comme ortho ou comme enseignant, au niveau de, je sais pas, l'esprit d'équipe, ou ça change rien?
Oh mon Dieu, je pense honnêtement que ça change rien. Moi, je suis une fille, puis c'est sûr qu'on a moins de gars profs
au primaire.
Mais au secondaire, moi, j'en vois beaucoup, puis il y en a qui sont... super ouvert. Moi, j'ai vu vraiment des belles choses. Fait que je pourrais vraiment pas faire une discrimination gossée à ce niveau-là.
Les directions, est-ce qu'ils sont... Parce que, on dit toujours que les directions, souvent, c'est là qu'ils vont couper. Quand ils n'ont pas d'argent, on coupe d'un service spécialisé. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes une nuisance parce que vous êtes un poste budgétaire qui coûte cher ou on est content en général?
C'est sûr que, je sais pas si on dirait jusqu'à dire qu'on est une nuisance, mais oui, on coûte cher.
Ouais.
Puis ce qui arrive, c'est qu'il y a un manque de financement. Puis on est dans un drôle de paradoxe, en fait, parce que il y a des allocations individuelles pour tous les élèves. Mais pour les élèves qui sont à risque, donc on comprend pas les élèves handicap, qui ont un handicap, ni les élèves qui ont un gros trouble du comportement, mais tous les autres, il y a une allocation supplémentaire seulement s'ils ont des diagnostics.
Ah, c'est ça.
Par contre, si les dans les écoles, on n'est pas dans une approche diagnostique. On offre des besoins, des services aux élèves qui représentent des besoins. Fait qu'il y a c'est un peu ironique parce que l'argent vient avec un diagnostic, mais par contre, on offre des services même s'il n'y a pas de diagnostic.
Mm-hmm.
Fait que les directions sont prises là-dedans, puis tu sais, ils ont pas assez de financement au final parce que c'est pas tous les enfants qui ont des besoins qui ont des diagnostics.
En tout cas, on entend que c'est vraiment pas un job. Il faut jongler, il faut avoir du doigté. Justine Dionne-Simard, merci beaucoup.
Oui, tout à fait. Ça me fait plaisir.
Merci Jean-Sébastien, merci à Christiane. Je vous dis à la semaine prochaine.